La souris métamorphosée en fille. Sur le bord du Gange, qui a de gros flots d'écume blanche produites par les allées et venues des poissons effrayés, d'entendre le bruit de l'eau se heurtant contre la surface d'âpres rochers, il y a un lieu d'ermitage plein d'ascètes qui se consacrent entièrement à la pratique des œuvres de la prière, des austérités, de la pénitence, de l'étude des Védas, du jeûne et de la méditation, qui ne veulent prendre qu'un peu d'eau pure, qui mortifient leur corps en mangeant des raves, des fruits, du sévala, et non pour vêtements qu'un pagne fait d'écorce. Là était un chef de famille nommé Yajnavalkya. Il s'était baigné dans la Janaoui et commençait à se rincer la bouche lorsqu'une souris, échappée du bec d'un faucon, lui tomba dans la paume de la main. Quand il la vit, il la mit sur une feuille de figuier, se baigna de nouveau, se rinça la bouche, accomplit la cérémonie d'expiation et autres actes purificatoires, fit de la souris une fille par la puissance de ses austérités, regagna avec elle son ermitage et dit à sa femme qui n'avait pas d'enfant: « Ma chère, prends cette fille qui t'est née et élève-la avec soin. » Puis la fille fut élevée, choyée et soignée par la femme de l'ascète jusqu'à ce qu'elle eût 12 ans. Lorsque celle-ci la vit bonne à marier, elle dit à son mari: « Ô mari, ne vois-tu pas que le temps de marier notre fille est passé ?»« Bien parlé, » répondit celui-ci. Et l'on dit: les femmes sont d'abord possédées par les dieux Soma, les Gandharva et Agni. Les hommes les possèdent après. C'est pour cela qu'elles sont sans tâche. Soma leur a donné l'éclat. Les Gandharva une parole douce, Agni une pureté complète. C'est pour cela que les femmes sont exemptes de souillure. Quand elle n'a pas encore ses règles, la jeune fille est Gauri. Quand elle a ses règles, elle est Rohini. Quand elle n'a pas les signes de puberté et pas de sein, elle est Nanika. Mais lorsque les signes de puberté sont venus, Soma possède la jeune fille, les Gandharvas sont dans ses seins et Agni dans ses règles. En conséquence, que l'on marie la jeune fille dès qu'elle a ses règles, et quand la jeune fille a 8 ans, le mariage est recommandé. Les signes de puberté d'abord, puis les seins, et aussi le plaisir de l'amour font perdre les mondes désirés et la menstruation tue le père. Mais dès que la jeune fille a ses règles, il lui est permis de prendre qui elle veut, en conséquence qu'on la marie avant qu'elle ait ses règles, a dit Manu Swayambhuva. La jeune fille qui voit ses règles dans la maison de son père sans être mariée est une fille non mariable et abjecte, qu'on appelle Vrishali. Un père doit prendre une résolution et donner à des supérieurs, à des égaux ou à des inférieurs, une fille qui a ses règles, afin de ne pas être en faute. Par conséquent, je la donnerai à un égal et non à un autre. Et l'on dit, entre deux personnes dont la richesse est égale, entre deux personnes dont la race est égale, il peut y avoir mariage et amitié, mais pas entre fort et faible. Et ainsi, famille, moralité, existence d'un protecteur, savoir, fortune, beauté et âge, après avoir considéré ces 7 qualités, les sages doivent donner leur fille. Il ne faut pas s'inquiéter du reste. Si donc cela lui plaît, alors j'appellerai le vénérable soleil et je la lui donnerai. Quel mal y a-t-il à cela? Dit la femme. Fais-le. Puis l'ascète appela le soleil. Par la puissance de l'invocation au moyen des formules mystiques des Védas, le soleil vint à l'instant même et dit « Vénérable, pourquoi m'appelles-tu » L'ascète répondit « Voici ma fille, si elle te choisit, épouse-la donc. » Après avoir ainsi parlé, il dit à sa fille « Ma fille, ce vénérable soleil qui éclaire les 3 mondes, te plaît-il ? Mon père, répondit la fille, il est trop brûlant, je n'en veux pas. Appelle donc quelque autre être plus éminent que lui. Lorsque la sète eut entendu ces paroles de sa fille, il dit au soleil : Vénérable, y a-t-il quelqu'un de supérieur à toi ? Le soleil répondit : Le nuage est supérieur à moi, car couvert par lui, je deviens invisible. Puis la sète appela le nuage et dit à sa fille : Ma fille, je vais te donner à celui-ci. Il est noir et froid, répondit-elle. Donne-moi donc à quelque autre être plus grand que lui. Puis la sète demanda aussi au nuage : Hé, nuage, y a-t-il quelqu'un de supérieur à toi ? Le nuage répondit : Le vent est supérieur à moi. Battu par le vent, je m'en vais en 1000 morceaux. Après que la sète eut entendu cela, il appela le vent et dit : Ma fille, le vent que voici paraît être ce qu'il y a de mieux pour être ton mari. Mon père, répondit-elle, il est trop variable. Fais donc venir quelqu'un de supérieur à lui. La sète dit : Vent, y a-t-il quelqu'un de supérieur à toi ? Le vent répondit : Le mont est supérieur à moi. Car tout fort que je suis, il m'arrête et me retient. Puis la sète appela le mont et dit à sa fille : Ma fille, je vais te donner à celui-ci. Mon père, répondit-elle, il est dur et roide, donne-moi donc à un autre. La sète demanda au mont : Hé, roi des montagnes, y a-t-il quelqu'un de supérieur à toi ? Le mont répondit : Les rats sont supérieurs à moi, eux qui par la force déchirent mon corps. Ensuite la sète appela un rat, le montra à sa fille et dit : Ma fille, je vais te donner à celui-ci. Ce roi des rats te plaît-il ? Mais elle, quand elle le vit, pensa : Celui-là est de mon espèce. Et les poils du corps hérissés de joie, elle dit : Mon père, fais-moi souris et donne-moi à lui, afin que je remplisse les devoirs de maison prescrits pour mon espèce. Puis la sète, par la puissance de ses austérités, la fit souris et la donna au rat. Voilà pourquoi je dis : Après avoir refusé pour époux le soleil, le nuage, le vent, le mont, une souris retourna à son espèce. Il est difficile de dépasser son espèce. Mais, sans tenir aucun compte des paroles de Rakhtaksha, ils emmenèrent Stiradjivine à leur forteresse pour la perte de leur race. Et pendant qu'on le conduisait, Stiradjivine rit en lui-même et pensa : Celui qui, conseillant le bien de son maître, a dit : Qu'on le tue. Celui-là seul entre tous ceux d'ici connaît le véritable objet de la science de la politique. Ainsi, s'ils avaient fait ce qu'il a dit, il ne leur arriverait pas le moindre mal. Puis, lorsqu'on fut arrivé à la porte de la forteresse, Harimardana a dit : Hé, donnez à ce Stiradjivine qui nous veut du bien une place comme il la désire. » Quand Stiradjivine entendit cela, il pensa : Il faut pourtant que je médite un moyen de les faire périr. Ce moyen, je ne puis le trouver si je reste au milieu d'eux, car ils épieront attentivement mes gestes, etc. Par conséquent, je demeurerai à la porte de la forteresse et j'accomplirai mon dessein. Après avoir pris cette résolution, il dit au roi des hiboux : Majesté, ce que le roi a dit est bien, mais moi aussi je connais la politique et je vous suis affectionné. Quoique je vous aime et que je sois honnête, il n'est cependant pas convenable que je demeure au milieu de la forteresse. Ainsi, je resterai ici à la porte de la forteresse, et purifiant mon corps avec la poussière de vos pieds pareils au lotus, je vous rendrai chaque jour mes hommages. » Il lui fut répondu oui, et tous les jours les serviteurs du roi des hiboux préparèrent des aliments comme ils voulurent, et par ordre du roi des hiboux, donnèrent pour nourriture à Stiradjivin d'excellentes viandes. Puis en quelques jours il devint fort comme un paon. Mais lorsque Raktaksha vit que l'on nourrissait Stiradjivin, il fut surpris et dit au ministre et au roi « Ah, les ministres sont fous et vous aussi, c'est ma conviction !» Et l'on dit « D'abord, moi seulement j'ai été fou, en second lieu l'oiseleur, puis le roi et le ministre, vraiment tout un tas de fous !»«
Comment cela ?» dirent ceux-ci.
Raktaksha raconta. Le roi et l'oiseau. Il y avait dans un endroit d'une montagne un grand arbre, et là demeurait un oiseau nommé Simbuka. Dans la fiente de cet oiseau naissait de l'or. Un jour, un chasseur vint vers l'oiseau, et celui-ci fianta devant lui. Or, quand il vit la fiente devenir de l'or au moment même où elle tombait, le chasseur fut étonné. « Ah ! Depuis mon enfance, il y a 80 ans que je fais métier de prendre des oiseaux, et jamais je n'ai vu de l'or dans la fiente d'oiseau !» Après avoir ainsi pensé, il tendit là un filet à l'arbre. Puis ce sot oiseau se percha là comme auparavant, le cœur confiant, et fut à l'instant même pris dans le filet. Le chasseur le retira du filet, le mit dans une cage et le porta à sa maison. Ensuite il pensa « Que ferai-je de cet oiseau dangereux? Si jamais quelqu'un sait qu'il est de cette espèce et en instruit le roi, alors assurément je courrai risque de la vie. Par conséquent, j'offrirai moi-même l'oiseau au roi. » Après qu'il eut fait ses réflexions, il agit ainsi. Le roi, quand il vit cet oiseau, ouvrit de grands yeux dans son visage pareil à un lotus. Il éprouva la plus grande satisfaction et dit « Hola, garde ! Gardez cet oiseau avec soin et donnez-lui à manger, à boire et le reste tant qu'il voudra. » Mais un ministre dit Pourquoi accepter cet oiseau uniquement par confiance en la parole d'un chasseur qu'il ne faut pas croire? Est-ce que jamais il n'est de l'or dans la fiente d'oiseau? Qu'on délivre donc cet oiseau des liens de la cage. » D'après le conseil du ministre, le roi fit lâcher l'oiseau. Celui-ci se percha sur l'arceau de la grande porte, fit une fiente d'or, et après avoir récité le shloka, « D'abord moi seulement j'ai été fou », il s'en alla heureusement par le chemin de l'air. Voilà pourquoi je dis « D'abord moi seulement j'ai été fou, en second lieu l'oiseleur, puis le roi et le ministre, vraiment tout un tas de fous. » Mais ceci, cette fois encore, par l'effet du destin contraire, ne tinrent pas compte des paroles de Raktaksha, toutes bonnes qu'elles étaient, et continuèrent de nourrir Stiradjivin avec divers aliments, de la viande en abondance et autre chose. Puis Raktaksha appela sa troupe et lui dit en secret « Ah, jusqu'ici notre souverain a possédé le bonheur et une forteresse. J'ai conseillé comme parle un ministre venu par héritage de famille. Réfugions-nous donc maintenant dans une autre forteresse de montagne. Car on dit, celui qui agit avec circonspection est heureux. Celui-là éprouve du chagrin qui n'agit pas avec circonspection. J'ai vieilli ici dans la forêt. Jamais je n'ai entendu parler une caverne. » Comment cela ? Dirent-ils. Rakhtaksha raconta le lion et le chacal. Dans un endroit d'une forêt habitait un lion nommé Karanakara. Ce lion, un jour, courant çà et là, le gosier, amaigri par la faim, ne rencontra aucun animal. Puis, à l'heure du coucher du soleil, il arriva à une grande caverne de montagne, y entra et pensa « Assurément, quelque animal doit venir la nuit dans cette caverne. Je vais donc m'y cacher. » Cependant, arriva le possesseur de cette caverne, un chacal nommé Dadipucha. Comme il regardait, il aperçut une ligne de traces de pas de lion qui entrait dans la caverne et qui n'en sortait pas. Alors il pensa « Ah, je suis perdu! Il doit sûrement y avoir un lion dans cette caverne! Que vais-je donc faire? Comment m'en assurerai-je ? » Après avoir ainsi réfléchi, il se tint à l'entrée et se mit à crier.
« Hola, caverne ! Hola, caverne !»
Lorsqu'il eut dit ces mots, il se tut et reprit de même.
« Hé ! Ne te souviens-tu pas que j'ai fait avec toi la convention que quand je viens de dehors, je dois te parler et que tu dois m'appeler ? Si donc tu ne m'appelles pas, j'irai alors dans une seconde caverne qui après m'appellera. »
Lorsque le lion entendit cela, il pensa « Sûrement cette caverne l'appelle toujours quand il vient. Mais aujourd'hui elle ne dit rien par peur de moi. Et certes on dit avec raison. Ceux qui sont saisis de frayeur ne peuvent faire agir ni main ni pied, etc. Ils restent sans parole et ils éprouvent un tremblement excessif. Je vais donc l'appeler afin que par suite de cet appel, il entre et devienne ma pâture. » Après avoir ainsi réfléchi, le lion appela le chacal. Puis, par l'effet du cri du lion, la caverne, remplie d'échos, épouvanta aussi les autres animaux de la forêt qui étaient au loin. Le chacal s'enfuit et récita ce shloka. Celui qui agit avec circonspection est heureux. Celui-là éprouve du chagrin qui n'agit pas avec circonspection. J'ai vieilli ici dans la forêt. Jamais je n'ai entendu parler une caverne. Par conséquent, vous devez penser de même et partir avec moi. Après avoir ainsi parlé, Rakhtaksha, accompagné des serviteurs qui composaient sa suite, alla dans un autre pays éloigné. Or, quand Rakhtaksha s'en fut allé, Stiradjivine eut le cœur très joyeux et pensa « Ah, cela arrive heureusement pour nous que Rakhtaksha soit parti, car il a la vue longue et ceux-ci sont des sots. Aussi sont-ils devenus pour moi faciles à tuer. » Car on dit, quand un souverain n'a pas des ministres à longue vue, venus par héritage, sa perte arrive assurément en peu de temps. Et certes, on dit ceci avec raison, les sages considèrent comme des ennemis sous l'apparence de ministres ceux qui abandonnent la bonne politique et s'appliquent à agir dans le sens contraire. Après avoir ainsi réfléchi, il jeta tous les jours un petit morceau de bois de la forêt dans son nid pour incendier la caverne, et les sots hiboux ne s'aperçurent pas qu'il agrandissait son nid pour les brûler. Et certes, on dit ceci avec raison. Il tient un ennemi pour son ami, il hait un ami et lui nuit, il regarde le bien comme mal, le vice comme vertu, l'homme frappé par le destin. Puis quand, sous prétexte de faire un nid, Stiradjivine eut amassé un tas de bois à la portée de la forteresse, que le soleil fut levé et que les hiboux ne virent plus, il alla vite vers Mégavarna et lui dit « Maître, la caverne de l'ennemi est rendue facile à incendier. Venez donc avec votre suite. Prenez chacun un petit morceau de bois de la forêt allumée et jetez-le à l'entrée de la caverne dans mon nid, afin que tous les ennemis meurent dans des souffrances pareilles à celles de l'enfer, Kumbhipaka. » Lorsque Mégavarna entendit cela, il fut joyeux et dit « Père, raconte ton histoire. Il y a aujourd'hui longtemps que je ne t'ai vu. » « Mon enfant, répondit Stiradjivin, ce n'est pas le moment de parler, car si jamais quelque espion apprend à l'ennemi que je suis venu ici, le hibou, dès qu'il le saura, s'en ira ailleurs. Hâtez-vous donc !» Et l'on dit, « Quand un homme temporise dans les affaires qui doivent être faites avec promptitude, les dieux, par colère contre lui, mettent obstacle à ce qu'il a à faire, assurément. » Et ainsi, car si une affaire quelconque, et particulièrement celle qui est fructueuse, n'est pas faite promptement, le temps en hume le fruit. Par conséquent, lorsque je serai revenu à la maison et que vous aurez tué l'ennemi, je vous raconterai tout en détail avec tranquillité. Après avoir entendu ces paroles, Mégavarna et ses serviteurs prirent chacun avec le bout du bec un petit morceau de bois de la forêt allumée, et quand ils furent arrivés à l'entrée de la caverne, ils le jetèrent dans le nid de Stiradjivin. Puis tous les hiboux, se souvenant des paroles de Raktaksha et ne pouvant sortir vu que la porte était fermée, furent rôtis au milieu de la caverne comme dans le Kumbhipaka et moururent. Lorsque Mégavarna eut ainsi détruit ses ennemis jusqu'au dernier, il retourna à la forteresse du figuier. Ensuite, il s'assit sur son trône, et au milieu de sa cour, le cœur joyeux, il demanda à Stiradjivin : « Père, comment as-tu passé tant de temps au milieu des ennemis? Je suis curieux de savoir cela, raconte-le. Car mieux vaut pour ceux qui sont vertueux tomber dans un feu ardent que de demeurer dans la société des ennemis seulement une heure. » Quand Stiradjivin entendit cela, il dit « Mon cher, lorsqu'il désire un avantage futur, un serviteur ne connaît pas de peine. Car on dit, tout chemin qui à travers des dangers imminents mène à un avantage doit être suivi avec adresse, qu'il soit grand ou petit. Arjuna attacha comme une femme des bracelets bien travaillés autour de ses mains, pareils à des trompes d'éléphants, marquées de coups de corde d'arc et habiles en fait d'exploit. Celui-même qui est fort, ô roi, s'il est sage, doit toujours, dans l'attente d'un autre temps, habiter même chez des gens méprisables et méchants qui parlent avec dureté. La main embarrassée d'une cuillère, noircie de fumée et accablée de fatigue, le très puissant Bhima n'a-t-il pas demeuré dans le pays des Matsyas comme cuisinier? Quoi qu'il arrive de fâcheux, de bien ou de mal, le sage doit attendre le moment favorable et exécuter l'œuvre qu'il a conçue dans son esprit. Arjuna, qui avait les mains durcies par les secousses lourdes et fortes que lui donnait le tremblement de Gandiva, n'a-t-il pas folâtré dans des danses lascives, parées d'une ceinture? Quand il désire atteindre un but, l'homme sage doit contenir son ardeur. Et, quoique énergique par nature, supporter avec courage et avec force les arrêts du destin. Bien que possédant des frères pareils au roi des dieux, au maître des richesses et à Yama, l'illustre fils de Dharma n'a-t-il pas, affligé très longtemps, porté les trois bâtons de religieux mendiants? Beau et bien-né, les deux puissants fils de Kunti entrèrent au service de Virata et firent le métier de vacher. Celle qui, ici-bas, par sa figure incomparable, par les qualités de la jeunesse, par sa naissance dans une très noble famille, par sa beauté, était comme Shri, celle-là même tomba dans une malheureuse situation par la suite du temps. Commandée avec fierté et d'une manière injurieuse par des jeunes femmes qui l'appelaient servante, Draupadi n'a-t-elle pas pilé le sandal dans la maison du roi des Matsya ? Père, dit Megavarna, demeurer avec un ennemi est une chose que je regarde comme pareille à la pénitence du tranchant d'épée. Majesté, répondit Stiradjivine, cela est vrai, mais je n'ai vu nulle part une telle réunion de sots. Et excepté Raktaksha, qui est très sage et qui possède une intelligence incomparable de beaucoup d'écrits, il n'y en avait pas un de sensé, car celui-là a reconnu la disposition de mon cœur, tandis que les autres ministres étaient de grands imbéciles, qui ne vivaient que du nom de ministres, et étaient incapables de discerner la vérité, puisqu'ils n'ont même pas vu cela. Car un mauvais serviteur qui vient de l'ennemi ne pense qu'à se joindre à lui. Comme il s'est écarté de la voie du bien, il est toujours peureux et méchant. Dans la position d'être assis dans le sommeil, dans la marche, dans les choses du boire et du manger, les ennemis frappent les ennemis qui n'ont aucun souci des dangers prévus ou imprévus. À cause de cela, le sage doit se garder attentivement et avec le plus grand soin, comme la demeure des trois objets de la vie. En effet, par l'insouciance, il périt. Et l'on dit ceci avec raison. Quel est celui que n'afflige pas les maladies s'il se nourrit d'aliments malsains? Qui ne commet pas de fautes en politique quand il a de mauvais ministres? Quel est celui que la fortune n'enorgueillit pas? Quel est celui que ne frappe pas la mort? Quel est celui à qui les plaisirs des sens, quand ils s'y adonnent, ne causent point de tourments? L'homme cupide perd la réputation, le méchant, l'amitié. Celui dont les œuvres sont détruites, sa caste. Celui qui est avide de richesses, la vertu. L'homme vicieux, le fruit de la science. Le malheureux, la joie. Le prince qui est un ministre insouciant, son royaume. Aussi, ô roi, ce que vous avez dit, que j'ai accompli la pénitence du tranchant d'épée en demeurant avec les ennemis, je m'en suis aperçu par mes yeux. Et l'on dit, mettant le mépris avant tout et laissant la considération derrière, que le sage fasse réussir ce qu'il désire, car échouer dans ce que l'on désire, c'est sottise. Que le sage porte son ennemi même sur l'épaule quand le temps est venu. Un grand serpent noir, tu as beaucoup de grenouilles. Comment cela ? Dit Megavarna. Stiradjivine raconta. Le serpent et les grenouilles. Il y avait dans un endroit proche du mont Varuna un serpent noir d'un âge mûr, nommé Mandavisha. Il pensa ainsi dans son cœur. Comment me procurerais-je ma subsistance par un moyen facile? Puis il alla à un étang où il y avait beaucoup de grenouilles et fit semblant d'être calme et satisfait. Or, pendant qu'il se tenait là ainsi, une grenouille venue au bord de l'eau lui demanda «
Mon oncle, pourquoi ne te promènes-tu pas aujourd'hui comme autrefois pour chercher de la nourriture ?»«
Ma chère, répondit-il, comment pourrais-je désirer de la nourriture, malheureux que je suis ? Car cette nuit, dans la soirée, en me promenant pour chercher de la nourriture, je vis une grenouille. » Je m'avançais pour la prendre. Lorsqu'elle m'aperçut, elle se sauva par crainte de la mort au milieu de brahmanes appliqués à l'étude des Védas, et je ne remarquai pas où elle était allée. Trompé par quelque chose qui lui ressemblait, je mordis au pouce le fils d'un brahmane nommé Dradika qui était près de l'eau au bord de l'étang. Puis il mourut à l'instant, et son père, saisi de douleur, me maudit.
« Méchant, puisque tu as mordu mon fils sans qu'il t'eût fait aucun mal, à cause de ce crime, tu serviras de monture aux grenouilles, et tu vivras de la nourriture que tu recevras de leur bonté. Ensuite, je suis venu pour vous porter. »
La grenouille apprit cela à toutes les grenouilles. Puis celles-ci, joyeuses, allèrent tout en instruire le roi des grenouilles, nommé Jalapada.
« Cela est très étonnant, »
pensa celui-ci. Et entouré de ses ministres, il sortit précipitamment de l'étang et monta sur le chaperon de Mandavisha. Les autres grenouilles, suivant l'ordre de prééminence, montèrent sur le dos du serpent. Bref, celles qui ne trouvèrent pas de place sur lui coururent à sa suite. Mandavisha, pour sa propre satisfaction, montra plusieurs sortes de manières de marcher, et Jalapada, qui éprouvait du plaisir au contact de son corps, lui dit « Ni par un éléphant, ni par un cheval, ni sur un char, ni par des hommes, je ne serai porté aussi bien que par Mandavisha. » Mais un jour Mandavisha, par fourberie, marcha très lentement, et quand Jalapada vit cela, il dit « Mon cher Mandavisha, pourquoi n'est-on pas aussi bien porté aujourd'hui qu'autrefois ?»«
Majesté, répondit Mandavisha, aujourd'hui, par manque de nourriture, je n'ai pas la force de porter. »
Alors Jalapada dit
« Mon cher,
mange de petites grenouilles. »
Lorsque Mandavisha entendit cela, il éprouva de la joie dans tout le corps et s'empressa de dire « C'est précisément la malédiction du Brahman contre moi. Aussi je suis content de cette permission que vous me donnez. »
Puis mangeant continuellement des grenouilles, il devint fort en quelques jours et joyeux. Il rit intérieurement et dit ceci « Ces grenouilles de diverses espèces déjà attrapées par la ruse, combien de temps pourrais-je en manger sans qu'elles soient détruites ?» Jalapada, dont Mandavisha avait séduit le cœur par ses paroles feintes, ne s'aperçut de rien. Cependant, un autre grand serpent noir vint en ce lieu. Et quand il vit Mandavisha monter par les grenouilles, il tomba dans l'étonnement et dit
« Mon ami, tu te fais monter par ces grenouilles qui sont notre nourriture ? C'est absurde !»
Mandavisha répondit « Je sais bien tout cela, que je suis bête de somme pour les grenouilles. J'attends un moment favorable comme le Brahman qui devait devenir aveugle au moyen de gâteaux au beurre. »«
Comment cela ? » dit le serpent.
Mandavisha raconta le Brahman et sa femme. Il y avait dans une ville un Brahman nommé Yadnadatta. Sa femme était libertine et attachée à un autre. Elle faisait continuellement pour son galant des gâteaux au sucre et au beurre, et les lui donnait en cachette de son mari. Mais un jour le mari la vit et lui dit
« Ma chère, que fais-tu cuire là, et où portes-tu cela continuellement? Dis la vérité !»
Cette femme, prenant un air d'assurance, répondit à son mari par un mensonge.
« Il y a pas bien loin d'ici un temple de la vénérable Devi. Là, je porte, après avoir jeûné, des offrandes et des aliments choisis et excellents. »
Puis elle prit tout cela sous les yeux de son mari et s'en alla vers le temple de Devi. « Car, pensa-t-elle, si j'offre cela à Devi, mon mari croira que sa brahmanie porte toujours des aliments choisis pour la vénérable déesse. » Pendant que, après être allée au temple de Devi et être descendue à la rivière pour se baigner, elle accomplissait l'œuvre du bain, son mari, venu par un autre chemin, se mit derrière Devi, de manière à n'être pas vu. La femme du brahmane, après s'être baignée, vint dans le temple de Devi et accomplit les cérémonies de l'ablution, de l'onction, des fleurs, de l'encens, des offrandes, etc. Puis elle se prosterna devant Devi et dit « Vénérable, de quelle manière mon mari deviendra-t-il aveugle ?» Quand il entendit cela, le brahmane qui était derrière Devi dit en déguisant sa voix « Si tu donnes continuellement des gâteaux au beurre et autres friandises à ce mari, alors il deviendra promptement aveugle. » La libertine, trompée par ses paroles feintes, donna toujours au brahmane cela même. Or un jour, le brahmane dit « Ma chère, je ne vois pas très bien. » Lorsqu'elle entendit cela, elle pensa « C'est la faveur de Devi que j'obtiens. » Puis le galant cher à son cœur vint chaque jour sans crainte auprès d'elle en se disant « Que pourra me faire ce brahmane devenu aveugle ?» Mais un jour que le brahmane le vit entrer et s'approcher de lui, il le saisit par les cheveux et le frappa à coups de bâton, à coups de pied, etc., jusqu'à ce qu'il mourût. Et il coupa le nez à cette méchante femme et la chassa. Voilà pourquoi je dis, je sais bien tout cela, que je suis bête de somme pour les grenouilles. J'attends un moment favorable comme le brahmane qui devait devenir aveugle au moyen de gâteaux au beurre. Puis Mandavisha, riant en lui-même, continua. Les grenouilles ont diverses saveurs. Jalapada, quand il entendit cela, fut très inquiet de savoir ce qu'il avait dit et lui demanda. « Mon cher, qu'as-tu dit ? C'est une mauvaise parole. » Mais Mandavisha, pour dissimuler, répondit. « Rien. » De cette façon, Jalapada, trompé par les paroles mensongères du serpent, ne comprit pas sa mauvaise intention. Bref, les grenouilles furent toutes mangées par le serpent, de telle sorte qu'il n'en resta pas même seulement une semence. Voilà pourquoi je dis que le sage porte son ennemi même sur l'épaule quand le temps est venu. Un grand serpent noir tue beaucoup de grenouilles. Or, ô roi, de même que Mandavisha tua les grenouilles par la force de l'intelligence, de même moi aussi j'ai fait périr tous les ennemis. Et l'on dit ceci avec raison. Le feu allumé dans une forêt tout en brûlant épargne les racines. L'inondation douce et froide arrache avec les racines. Père, dit Megavarna, cela est bien vrai. Ceux qui ont l'âme élevée, ces êtres doués d'une grande force, lors même qu'ils tombent dans le malheur, n'abandonnent pas ce qu'ils ont entrepris. Car on dit, ce qui fait la grandeur de ceux qui sont grands, qui possèdent l'ornement de la science politique, c'est qu'ils n'abandonnent pas ce qu'ils ont entrepris, même au lever pénible de l'infortune. Et ainsi, les hommes inférieurs n'entreprennent assurément pas par crainte des obstacles. Après avoir entrepris, les hommes médiocres cessent quand ils sont arrêtés par les obstacles. Lors même qu'ils sont heurtés par des obstacles multipliés par milliers, les hommes d'un très haut mérite n'abandonnent pas ce qu'ils ont entrepris. Ainsi tu as délivré mon royaume de tout embarras, en exterminant les ennemis jusqu'au dernier. Et certes, cela convient à ceux qui connaissent la politique. Car on dit, le sage qui ne laisse ni un reste de dette, ni un reste de feu, ni un reste d'ennemis, ni un reste de maladie, ne tombe pas dans l'affliction. Majesté, dit Stiradjivin, vous êtes heureux, car tout ce que vous avez entrepris réussit. En cela, la bravoure seule mène une affaire à bonne fin. Mais ce qui est fait par la sagesse, voilà ce qui donne la victoire. Et l'on dit, des ennemis tués par les armes ne sont pas tués. mais des ennemis tués par la sagesse sont bien tués. L'arme ne tue que le corps de l'homme. La sagesse tue famille, fortune et réputation. Ainsi, vraiment, celui qui a de la sagesse et du courage réussit sans peine dans ses entreprises. L'intelligence va devant au début de l'entreprise. Le désir prend de la force. La délibération, apportant d'elle-même les résolutions, ne tombe pas dans le trouble. La réflexion brille accompagnée de fruits. Le cœur s'élève et le plaisir a lieu chez l'homme qui va se livrer à une action louable. Et ainsi, la souveraineté dans l'homme qui possède talent politique, libéralité et bravoure. Et l'on dit, l'homme qui aime la société de celui qui est libéral, brave et sage, devient vertueux. À l'homme vertueux la richesse, et par suite de la richesse le bonheur. À l'homme heureux le commandement, et en conséquence la souveraineté. Assurément, dit Mégavarna, les préceptes de la politique portent à l'instant leurs fruits, car en les suivant et en allant auprès d'Arimardana, tu l'as exterminé avec toute sa suite. Stiradjivine dit, une chose même dont on doit se rendre maître par des moyens tranchants, il est néanmoins très bon de s'en faire d'abord une protection. Le roi des arbres, à la cime élevée, le plus beau des forêts, fier et vénérable, est coupé. Et certes, ô maître, à quoi sert-il de dire une parole qui n'est pas immédiatement suivie de l'action ou qui est difficile à exécuter? Et l'on dit ceci avec raison. Les paroles de ceux qui sont irrésolus, qui craignent de faire un effort et montrent sans faute à chaque pas, sont contredites par leurs résultats et deviennent dans le monde un objet de risée. Et même dans les entreprises faciles, les sages ne doivent pas montrer de l'insouciance. Car je pourrais le faire, c'est peu de choses, et cela peut être achevé sans effort. Quelle attention faut-il ici? Négligeant ainsi ce qu'ils ont à faire, quelques hommes d'un esprit insouciant tombent dans l'affliction de la douleur où l'on arrive aisément par un enchaînement d'infortunes. Ainsi maintenant mon maître, vainqueur de ses ennemis, trouvera le sommeil comme autrefois. Et l'on dit ceci. Dans une maison où il n'y a pas de serpent, ou dans laquelle les serpents ont été pris, on dort aisément. Mais là où l'on voit toujours des serpents, on trouve le sommeil avec peine. Et ainsi, tant que ceux qui s'efforcent avec orgueil, fierté et courage ne sont pas arrivés à la fin des grandes entreprises dont vient à bout une longue persévérance, qui sont l'objet des bénédictions des amis, qui montrent l'élévation de la sagesse politique et de l'audace et atteignent le but des désirs, comment la tranquillité trouverait-elle une place dans leur cœur impatient? Aussi, comme j'ai achevé mon entreprise, mon cœur se repose pour ainsi dire. Maintenant donc, jouissez longtemps de cette souveraineté, délivrée de tout embarras, apportez vos soins à la protection de vos sujets, et que l'éclat de votre parasol et de votre trône soit immuable dans la succession de vos fils, petits-fils et autres descendants. Et aussi, un roi qui ne se concilie pas l'affection de ses sujets par la protection et autres qualités est comme les faux mamelons au cou de la chèvre, sa souveraineté est inutile. Un roi qui a de l'amour pour les vertus, du mépris pour les vices, et qui aime les bons serviteurs, jouit longtemps du bonheur des souverains, bonheur accompagné du chasse-mouche qui s'agite, de la robe, du parasol blanc et des parures. Et il ne faut pas vous laisser abuser par l'ivresse du bonheur en pensant « Je possède la souveraineté, car la puissance des rois n'est pas stable ». Le bonheur de la royauté est une chose à laquelle il est aussi malaisé de s'élever que de monter à un bambou. Il est sujet à tomber en un instant. Difficile à conserver, quoique tenu avec cent efforts, trompeur à la fin, bien que loué et vénéré, fugitif et capricieux comme la race des singes, attaché faiblement comme l'eau sur une feuille de lotus, très variable comme le cours du vent, aussi peu sûr que la liaison avec le méchant, intraitable comme le serpent, il ne conserve sa couleur qu'une heure, comme la ligne des nuages du crépuscule. Il est, par sa nature, fragile comme une file de bulles d'eau, ingrat comme le naturel du boa constrictor. Il se montre et disparaît en un instant, comme un monceau de richesses acquis en songe. Et en outre, le jour même où l'on est sacré roi, l'esprit doit être préparé aux infortunes, car les vases, au moment du sacre des rois, versent le malheur avec l'eau. Et il n'y a certainement personne que les malheurs ne puissent atteindre. Et l'on dit, en considérant la course vagabonde de Rama, la répression de Bali, la forêt des fils de Pandu, la destruction des Vrishni, la déchéance du roi Nala, le service d'Arjuna comme danseuse, la chute du souverain de Lanka. L'homme ici-bas supporte tout de la volonté du destin. Quel est celui qui préserve l'autre? Où est allé Dasaratha, qui dans le ciel était ami du grand Indra? Où est aussi le roi Sagara, qui arrêta le flot de l'océan? Où est le fils de Vena, né de la paume de la main? Où est Manu, fils du soleil? Le puissant dieu de la mort ne les a-t-il pas enchaînés et ne leur a-t-il pas fermé les yeux? Où est allé Mandatri, le vainqueur des trois mondes? Où est le roi Satyavatra? Où est allé Nahusha, le roi des dieux? Où est Kesava, qui possédait la sainte écriture? On croit qu'avec leurs chars, avec leurs excellents éléphants, ils sont assis sur le trône de Chakra. Mais, imités par le magnanime dieu de la mort, ils ont été chassés par lui. Et aussi, ce roi, ses ministres, ses femmes, ses bosquets, tout cela, vu par le dieu de la mort, a péri. Après avoir ainsi obtenu le bonheur de la souveraineté, qui branle comme l'oreille d'un éléphant en rut, goûtez-le en ne vous attachant qu'au bien.